de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « La Jamaïque salue également la victoire de Kamala Harris ». La Palestine salue la défaite de Donald Trump. Les frais de victoire de Joe Biden pour l'Indonésie. Félicitant Joe Biden, Jokowi espère que les relations avec les États-Unis se renforceront. Biden gagne, les États-Unis font preuve d'une bonne démocratie, a affirmé le président de DPD de l'Indonésie. 23 exportateurs de nids d'hirondelles vers la Chine ont des certificats, a affirmé le ministère du Commerce. La loi sur la création d'emplois profite à la fois aux employeurs et aux travailleurs, a déclaré IPMI. Bon, chers auditeurs, voici le journal incomplet. En Inde, un certain nombre de personnes versent du lait pour les dieux, y compris en priant pour Kamala Harris, le vice-présidente élu des États-Unis, dans un temple près de la maison de la famille Harris dans la région de Tamil Nadu. La victoire de Harris, qui était la moitié de l'Inde et de la Jamaïque, était aussi une victoire pour les deux nations. Pendant ce temps, en Jamaïque, cité de Loop Jamaica, dimanche dernier, les Jamaïcains ont également célébré la victoire de Harris. Le bonheur s'exprime notamment à travers les réseaux sociaux. Le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, a également félicité Joe Biden et Kamala Harris via Twitter. L'Amérique aura sa première vice-présidente dans la figure de Kamala Harris et elle est fière d'avoir du sang jamaïcain. La Palestine se félicite de la défaite de Donald Trump lors de l'élection présidentielle des États-Unis. L'administration Trump est considérée comme ayant fourni le pire pour le peuple palestinien. C'est ce qu'a dit l'envoyé spécial du président palestinien Mahmoud Abbas, Nabil Shad, lors d'un entretien avec l'agence Anadolu dimanche dernier. Par ailleurs, le secrétaire général de l'Initiative nationale palestinienne, Mustafa Barghouti a également salué les résultats de l'élection présidentielle américaine. Il a déclaré que Trump était le pire président américain à avoir rencontré dans le temps moderne. Trump détruit les relations internationales et la politique. Au cours de son mandat, Trump a adopté un certain nombre de politiques très préjudiciables à la Palestine. Cela a commencé en décembre 2017 lorsqu'il a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Les États-Unis sont devenus le premier pays au monde à faire cela. En mai 2018, l'administration Trump a décidé de déplacer l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. À ce moment-là, la Palestine avait décidé de se retirer des pourparlers de paix négociés par les États-Unis avec Israël. La victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle des États-Unis devrait apporter de l'air frais au monde. Les implications de la victoire de Joe Biden seront également ressenties par l'Indonésie. L'Indonésie sera toujours considérée comme l'un des piliers américains en Asie du Sud-Est. Cela a été dit par le professeur de la Faculté des sciences sociales et des sciences politiques de l'Université Padjadjaran ou UNPAD, professeur Dr. Ari Bainus M.A., dans une discussion sur une heure pour parler de la science tenue virtuellement par le Conseil des professeurs d'UNPAD dimanche dernier. Selon le professeur Ari, Joe Biden a tendance à mener des politiques de multilatéralisme en s'appuyant sur ses alliés en Asie du Sud-Est sur diverses questions de sécurité. L'Indonésie est un pays considéré comme important pour rendre la région de l'Asie du Sud-Est propice, en particulier en ce qui concerne la question de la mer de Chine méridionale. L'Indonésie, selon Ari, aura l'occasion d'établir une coopération bilatérale avec les États-Unis dans le secteur de la défense, comme l'approvisionnement en armes et la formation militaire pour l'armée nationale indonésienne. Le président Joko Widodo a félicité Joe Biden pour la victoire électorale aux États-Unis. Les résultats des élections, selon lui, reflètent les espoirs de la société américaine à travers la démocratie. C'est ce qu'a déclaré Joko Widodo dans son tweet sur le compte Twitter officiel dimanche dernier. Joko Widodo espère également que la victoire de Biden pourra améliorer et renforcer la coopération bilatérale entre l'Indonésie et les États-Unis, à la fois dans les domaines économiques, démocratiques et multilatéraux. Pendant ce temps, Joe Biden du Parti démocrate a pris la tête de Donald Trump lors des élections américaines. Dans son premier discours officiel, dimanche matin, heure indonésienne, Biden a déclaré qu'il se positionnait comme un leader qui ne cherchait pas la division, mais unirait le pays. Le président du Conseil représentatif régional, ou DPD de l'Indonésie, Lanyala Mataliti, a déclaré que la victoire du président élu des États-Unis, Joe Biden, prouve que la démocratie est le meilleur système politique qui offre des chances égales à chaque citoyen d'émerger en tant que leader national. Lanyala, dans une déclaration écrite dimanche dernier, a déclaré que Joe Biden avait été élu non seulement en raison de sa longue expérience en tant que sénateur et avait été vice-président des États-Unis pendant deux mandats, mais parce que le peuple américain a besoin de quelqu'un de confiance pour faire avancer les États-Unis et répondre à un certain nombre de problèmes importants auxquels ce pays et le monde sont actuellement confrontés, en particulier à l'ère de la pandémie. En plus de féliciter Biden, Lanyala a également remercié le président Donald Trump qui a maintenu son engagement en faveur de bonnes relations avec l'Indonésie pendant son règne. Le ministère du Commerce a révélé qu'il existe encore 23 entreprises qui détiennent des certificats des exportations pour le net des rondelles vers la République populaire de Chine, qui est le plus gros acheteur de ce produit. Le vice-ministre du Commerce, Jerry Sambuaga, a déclaré dimanche à Medan que sur les 49 entreprises enregistrées en tant que titulaire d'un exportateur enregistré pour le net des rondelles, seuls 23 ont obtenu la certification d'exportation pour les nids d'hirondelle vers la Chine. Il espère que toutes les sociétés d'exportation du nid d'hirondelle auront des certificats d'exportation vers la Chine avant que le volume des exportations augmente. De plus, l'Indonésie a depuis longtemps une convention collective pour fixer des normes d'hygiène des produits. L'Association indonésienne des jeunes entrepreneurs, ou IPMI, a estimé que la loi Omnibus sur la création d'emplois, adoptée il y a quelque temps, profite aux travailleurs et aux employeurs. Cela a été transmis par le chef du département des ressources humaines de l'industrie et du commerce IPMI, Aileen Halim, dans un communiqué officiel reçu dimanche par l'agence de presse Antara à Jakarta. Selon elle, sa partie salue la décision du gouvernement de promulguer la loi sur la création d'emplois. Le gouvernement a créé un climat favorable aux investissements en Indonésie, en particulier parmi les entrepreneurs. L'existence de cette loi omnibus sur la création d'emplois fournira des valeurs positives pour ouvrir les opportunités d'emploi les plus larges, de sorte que beaucoup de travail sera absorbé et réduira le chômage. En outre, il est d'avis que la loi omnibus sur la création d'emplois s'efforcera à améliorer la sécurité de l'emploi, les revenus et la sécurité sociale. En outre, il ouvrira également des opportunités aux micro, petites et moyennes entreprises et aux coopératives. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le commentaire intitulé « La croissance économique de l'Indonésie s'améliore ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, l'Agence centrale des statistiques a noté que la croissance économique de l'Indonésie au troisième trimestre de 2020 s'était contractée de -3,49%. Même si elle se contracte toujours, cette réalisation est meilleure que la position au deuxième trimestre 2020 qui a été enregistrée à -5,32%. Selon la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, jeudi la semaine dernière, 5 novembre 2020, la réalisation de la croissance économique
au troisième trimestre 2021 a été plutôt bonne par rapport à la position précédente. Cela montre qu'il existe actuellement un processus de reprise économique et un retournement de la direction de l'activité économique nationale vers une direction positive. L'amélioration de la croissance économique est tirée par une relance budgétaire ou par le rôle de l'instrument du budget des recettes et dépenses de l'État. Principalement dans le traitement du COVID-19 et du Programme national de relance économique. Au troisième trimestre 2020, l'absorption des dépenses publiques a connu une accélération accrue. Jusqu'à la fin de septembre, l'économie nationale a progressé de 15,5%. L'absorption du budget est soutenue par la réalisation d'une assistance sociale et d'un soutien au monde des affaires et aux petites et micro-entreprises. Selon les données de l'Agence centrale des statistiques, au cours de cette période, la consommation du gouvernement a augmenté de 9,76% par rapport à la période précédente. Ce qui se passe actuellement peut certainement être utilisé pour améliorer la croissance au quatrième trimestre. Mais gardez à l'esprit que cela sera largement déterminé par les conditions et les politiques actuelles et futures. Pour cette raison, le gouvernement doit maintenir ses tendances positives et ne pas être imprudent, car il n'est pas impossible que l'Indonésie soit prise au piège d'une récession prolongée comme celle de nombreux autres pays pendant la pandémie. Une récession aiguë augmenterait le taux de chômage qui, jusqu'au août dernier, seulement était de 9,77 millions. Une augmentation de 2,67 millions par rapport à la même période en 2019. On espère que le gouvernement pourra freiner l'augmentation du chômage en encourageant la croissance économique de trimestre en trimestre. Toutes les composantes de la croissance, tant en termes de dépenses que de production, doivent progresser. Le gouvernement a déclaré qu'il continuerait à accélérer le programme de traitement de COVID-19 et l'absorption du budget national de relance économique, qui s'élève à 695 billions de roupies. Cependant, jusqu'au début novembre, le budget qui avait été utilisé n'était que d'environ 54%. Cela signifie que des efforts sont encore nécessaires pour encourager l'absorption budgétaire afin que la tendance de croissance puisse être maintenue ou même augmentée. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à toutes et à tous, on va commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 9 novembre 1953. Le Cambodge devient indépendant de la France. Vous êtes avec moi Audrey. Serge Littard, le Cambodge est un pays sous la forme d'une monarchie constitutionnelle en Asie du Sud-Est. Ce pays est le successeur de l'Empire Khmer qui contrôlait jadis toute la péninsule d'Indochine entre le 11e et le 14e siècle vers son indépendance. L'État unitaire de la République d'Indonésie a beaucoup aidé cet État cambodgien. En 1863, le roi Norodom, installé par des Thaïlandais, se réfugie en France. En 1867, le roi Norodom signe un accord avec les Français qui lui donne le contrôle des provinces thaïlandaises de Battambang et de Siem Reap. Enfin, ces deux zones ont été accordées au Cambodge en 1906 dans un traité frontalier entre la France et la Thaïlande. Le Cambodge est devenu un protectorat par la France de 1863 à 1953 dans le cadre de la colonie d'Indochine. Après l'occupation japonaise dans les années 40, le Cambodge a finalement obtenu son indépendance de la France le 9 novembre 1953. Le Cambodge est devenu un royaume constitutionnel sous la direction du roi Norodom Sihanouk. Chers auditeurs, on continue avec l'événement du 9 novembre 1989. Ouverture du mur de Berlin par le gouvernement est-allemand. Le mur de Berlin est un mur de séparation construit par la République démocratique d'Allemagne, Allemagne de l'Est, qui séparait Berlin-Ouest et Berlin-Est, et d'autres régions de l'Allemagne de l'Est. Ce mur a été construit le 13 août 1961. En 1989, des changements politiques radicaux se sont passés dans la région de Bloc. L'Orient, qui a été associé à la libéralisation du système d'autorité dans le Bloc de l'Est et au déclin de l'influence de l'Union soviétique dans des pays comme la Pologne et la Hongrie. Après plusieurs semaines de troubles civils, le gouvernement est-allemand a annoncé le 9 novembre 1989 que le peuple est-allemand pourrait se rendre en Allemagne-Ouest et Berlin-Ouest. Chers auditeurs, on finit l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 9 novembre 1989. Saro Edibibowo, commandant du régiment de commandement de l'armée RPKAD, maintenant Kopassus, est décédé. Le lieutenant général de l'armée nationale indonésienne à la retraite, Saro Edibibowo, est une figure militaire indonésienne. Il est le père de Christiani Harawati, épouse du 6e président de la République d'Indonésie, Susilo Bambang Yudhoyono. Saro Edibibowo a joué un très grand rôle dans la lutte contre la rébellion du mouvement 30 septembre en sa qualité de commandant du RPKAD, ou maintenant appelé Kopassus. En outre, il a également été président de l'Agence de développement de l'éducation pour la mise en œuvre du Centre des principes directeurs pour vivre et pratiquer la Pancasila, BP7, ambassadeur d'Indonésie en Corée du Sud et gouverneur de l'Académie les Forces armées de la République d'Indonésie à Kabri, Sarwedi Wibowo, est décédé à Jakarta le 9 novembre 1989, à l'âge de 64 ans. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Berulang ingin bertemu, aku punya perasaan. Nampaknya kau tak mengerti. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Aku selalu menemani saat kau rapuh dan jatuh. Namun saat kau bahagia, nampaknya ku terlupakan. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Oh, tahukah dirimu, tahukah tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Dan aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, les petites et moyennes entreprises de Kotan capables d'entrer sur le marché mondial. Le ministre du Commerce, Agus Suparmanto, a libéré 5 containers d'exportation de meubles en Kotan, sur un total de 40 containers d'exportation produits par 3 petites et moyennes entreprises ou PME de Cirebon dans l'ouest de Jawa. Au total, 40 containers d'exportation ont été envoyés vers des pays de destination des exportations indonésiennes tels que les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie ainsi que des pays de l'Union européenne tels que l'Allemagne, la France, l'Italie et le Danemark. Il salue chaleureusement le succès des hommes d'affaires du secteur de Rotang pour se faire une place sur le marché mondial. Il espère que la détermination et la lutte de ces hommes d'affaires de PME de Cirebon pourront motiver d'autres exportateurs, en particulier les PME de toute l'Indonésie, avant qu'ils puissent encourager les performances des exportations indonésiennes non pétrolières et gazières. Selon lui, le succès de cette exportation montre également que les produits d'exportation de meubles en coton indonésien sont non seulement en mesure de maintenir la qualité, mais également de répondre à la demande et aux tendances actuelles du marché mondial qui ont tendance à utiliser des matériaux naturels et respectueux de l'environnement et ont des certificats de bois légaux ou vie légale. Le ministre Agus a souligné que les produits exportés cette fois-ci étaient également les résultats du Centre de l'éducation et de formation à l'exportation indonésienne, ou WPEI, du ministère du Commerce par le biais du programme de formation et d'assistance à l'exportation. Ce programme de formation est une manifestation de l'engagement du ministère du Commerce à soutenir les PME afin qu'elles puissent cibler le marché mondial pour vendre leurs produits. Ainsi, les PME montrent de plus en plus leur contribution à l'excédent de la balance commerciale de l'Indonésie. En 2019, l'Indonésie était classée 3e parmi les plus grands exportateurs mondiaux de produits en coton, avec une part d'exportation de 6,11% derrière la Chine, 45,15%, et le Vietnam, 12,49%. Pendant ce temps, la valeur des exportations de produits en coton indonésien pour la période janvier-août 2020 a été enregistrée à 357,16 millions de dollars américains. Cette valeur est en hausse de 4,35% par rapport à la même période en 2019. Le ministre Agus Parmanto a également indiqué que pour le marché américain, l'extension de la facilité du système généralisé de préférence ou GSP annoncé le 30 octobre 2020, était un élan pour continuer à intensifier les exportations de produits en coton vers les États-Unis. Il expliquait, pour entrer sur le marché d'exportation, les acteurs commerciaux peuvent profiter des informations sur le marché des représentants commerciaux à l'étranger. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Statusnya ingin aku mengenalnya. Aku berhasil menjadi temannya, walau sebatas di sosial media. Aku terbawa imaji tentangnya, citra yang dibuatnya. Komentar di timeline-nya, aku tak suka panas aku jadinya. Aku cemburu, terbakar hatiku, hilang sudah logika. Love.
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs de la Voix d'Indonésie. Nous nous retrouvons dans notre programme favori, le magazine culturel ayant pour titre Le pont Siti Nurbaya à l'ouest de Sumatra. Restez à l'écoute. Le pont Siti Nurbaya est un pont qui s'étend sur 156 mètres sur la rivière Batang Arau dans la ville de Padang à l'ouest de Sumatra. Ce pont relie le centre-ville à seberang Padang, tirant son nom du titre d'un roman classique Siti Nurbaya, travaillé par Marah Rusli. Le pont est un accès au Mont Padang. Le pont a été construit en 1995 et ouvert en 2002. Le pont Siti Nurbaya relie la ville de Padang à la vieille ville qui se trouve dans la région du Mont Padang. La vieille ville contient de vieux bâtiments de l'époque hollandaise, des villages chinois avec de nombreuses maisons traditionnelles aux couleurs rouges distinctives et de grandes statues. Sur le pont, il y a l'estuaire de Batang Arau qui se termine sur la plage de Padang elle-même. Il y a de vieux navires et bateaux qui s'appuient sur le bord du pont, ce qui rend cet endroit très intéressant à visiter, comme si vous n'étiez pas en Indonésie. Le pont Siti Nurbaya n'est pas trop loin de l'aéroport international de Minangkabau, car il est accessible en 30 minutes en utilisant le transport en commun ou des véhicules privés. En visitant le pont, vous pouvez également profiter de la vieille ville de l'autre côté du pont et profiter du coucher du soleil depuis la plage de Padang qui n'est pas loin du pont Siti Nurbaya. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Couture pour aujourd'hui, intitulé Le pont Siti Nurbaya à l'ouest de Sumatra. À demain!
Bagaimana bisa
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici apprendre l'indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien. Une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Membeli pulsa listrik ». Je répète, membeli pulsa listrik, en français, acheter du crédit électricité. Bonne étude. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est membeli pulsa listrik. Membeli pulsa listrik, en français, acheter du crédit électricité. La situation, le compteur d'électricité de la chambre de Kevin a sonné, alors il est allé à Rama pour lui demander comment acheter du crédit électricité.
Rama, mengapa meteran listrikku berbunyi terus ya?
Itu tandanya pulsa listrikmu habis.
Oh begitu, bagaimana cara membeli pulsa listrik?
Kamu bisa beli pulsa listriknya di situs belanja daring. Caranya, pilih bagian pulsa dan tagihan, klik bagian listrik PLN. Selanjutnya, masukkan nomor meter atau ID pelanggan, pilih jumlah pulsa, lalu bayar menggunakan opsi transfer bank.
Wah, praktis dan mudah ya!
Iya, sekarang kita bisa isi pulsa listrik secara daring.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Membeli pulsa listrik. Je répète. Membeli pulsa listrik. En français, acheter du crédit électricité. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Meteran listrik. Meteran listrik signifie compteur électrique. Berbunyi. Berbunyi signifie sonner. Pulsa listrik. Pulsa listrik signifie crédit électricité. Habis. Habis signifie s'épuiser. Situs belanja daring. Situs belanja daring signifie site d'achat en ligne. Tagihan. Tagihan signifie facture. Nomor meter. Nomor meter signifie numéro de compteur. ID pelanggan. ID pelanggan signifie identifiant de client. Bank transfer. Bank transfer signifie virement bancaire. Praktis. Praktis signifie pratique. PLN, perusahaan listrik negara. PLN, perusahaan listrik negara. Signifie PLN ou Société Nationale d'Electricité. Klik bagian listrik PLN. Klik bagian listrik PLN. Signifie cliquez sur la section électricité de PLN. Jumlah pulsa. Jumlah pulsa signifie nombre de crédit. Bayar. Bayar signifie payer. Menggunakan. Menggunakan signifie utiliser. Si vous voulez poser des questions sur une méthode ou un processus, vous pouvez utiliser le mot interrogatif bagaimana. Bagaimana signifie comment. Habituellement, pour demander comment, vous pouvez dire bagaimana cara. Bagaimana cara signifie comment puis-je. Par exemple, bagaimana cara membeli pulsa listriknya. Bagaimana cara membeli pulsa listriknya signifie comment acheter du crédit électricité. Pour répondre à la question bagaimana cara, bagaimana cara en français comment puis-je, vous devez expliquer séquentiellement le processus comme l'exemple suivant. Bagaimana cara membeli pulsa listrik? Bagaimana cara membeli pulsa listrik? Signifie comment acheter du crédit électricité. Pour y répondre, vous devez expliquer étape par étape. Par exemple, kamu bisa beli pulsa listriknya di situs belanja daring. Kamu bisa beli pulsa listriknya di situs belanja daring. En français, vous pouvez acheter du crédit électricité sur un site d'achat en ligne. Pertama, pilih bagian pulsa dan tagihan. Pertama, pilih bagian pulsa dan tagihan. Signifie tout d'abord sélectionner le crédit et la facture. Kedua, klik bagian listrik PLN. Kedua, klik bagian listrik PLN. Signifie ensuite cliquez sur la section électricité PLN. Ketiga, masukkan nomor meter atau ID pelanggan. Ketiga, masukkan nomor meter atau ID pelanggan. Signifie, troisièmement, remplissez le numéro du compteur ou l'identifiant client. Keempat, pilih jumlah pulsa. Keempat, pilih jumlah pulsa. Signifie, quatrièmement, sélectionnez le nombre du crédit. Lalu, bayar menggunakan bank transfer. Lalu, bayar menggunakan bank transfer. En français, puis payer par virement bancaire. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour mieux comprendre, écoutons encore une fois la conversation.
Rama, mengapa meteran listrikku berbunyi terus ya?
Itu tandanya pulsa listrikmu habis.
Oh, begitu. bagaimana cara membeli pulsa listrik?
Kamu bisa beli pulsa listriknya di situs belanja daring. Caranya, pilih bagian pulsa dan tagihan, klik bagian listrik PLN. Selanjutnya, masukkan nomor meter atau ID pelanggan, pilih jumlah pulsa, lalu bayar menggunakan opsi transfer bank.
Wah, praktis dan mudah ya!
Iya, sekarang kita bisa isi pulsa listrik secara daring.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'Indonésie d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute! Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci d'avoir écouté notre émission. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.